C'est l'histoire.
L'histoire.
Avec un grand I.
Quelle histoire ?
Chaque semaine, la fine équipe de l'histoire avec un grand I étudie avec vous un nouvel événement historique.
L'été arrive et c'est l'heure pour beaucoup d'entre nous de préparer les prochaines vacances au grand air. Depuis quelques années maintenant, une destination de l'ouest de la France fait son grand retour parmi les balades les plus prisées des Français et Françaises, le canal de Nantes à Brest. Si le projet de fournir à Brest un accès efficace à son arrière-pays date du XVIe siècle, c'est Napoléon Ier qui donne le go en 1803 en nommant l'ingénieur en chef des ponts et chaussées Guy Boissel en charge de l'étude du projet. Pour revenir avec moi sur l'histoire du canal de Nantes à Brest, la fine équipe de l'histoire avec un grand I. Bonjour Thierry Lafleur.
Oui, bonjour.
Bonjour Julien Marel.
Bonjour, bonjour à tous.
Bonjour à Grid Chauvier.
Bonjour.
L'histoire avec un grand I sur Prune.
Alors première question pour commencer cette émission, pourquoi a-t-on besoin d'un canal pour relier Nantes à Brest ou Brest à Nantes ?
À l'époque, le roi réside régulièrement à Nantes et
l'empereur.
L'empereur Napoléon Ier réside régulièrement à Nantes, au château, et Napoléon Ier est un gros gourmand.
Oui.
Il adore la bonne nourriture, la gastronomie, et quelle meilleure gastronomie et quel meilleur mets à proximité que les crêpes bretonnes. Et donc, à la base, ce canal est un moyen pour Napoléon Ier d'acheminer des crêpes de première qualité, ou les ingrédients pour les préparer, depuis Brest.
Depuis Brest et depuis toute la Bretagne, en fait, parce qu'assez rapidement, en fait, au début, il y avait une voie maritime privilégiée, du coup, Brest-Nantes, qui transportait des cargaisons et des cargaisons de crêpes entières. Et en fait, finalement, en voyageant à travers la Bretagne, c'est là que Napoléon s'est rendu compte que partout en Bretagne, on fait des crêpes et qu'il n'y a pas une crêpe.
Exactement.
Qui ressemble à une autre crêpe. Mmh. Et en fait, ce canal, finalement, cette idée, c'est de pouvoir justement accumuler au fil de l'eau les crêpes du peuple breton.
Donc en fait, c'est une espèce de route de la crêpe, on pourrait dire.
Totalement, totalement.
Pour avoir,
une route fluviale de la crêpe.
Pour amener toutes ces crêpes-là à Nantes.
Tout à fait.
On est assez chanceux à Nantes, du coup, de récupérer toutes ces crêpes. Pourquoi ne pas passer par la mer, tout simplement ?
Comme je vous l'ai dit, en fait, il y avait déjà cette voie qui transportait les crêpes depuis Brest, mais en fait, passer par les terres, passer par le Kreisbreiz, le centre Bretagne, ça permettait d'aller dans des endroits où on n'allait pas d'habitude. Mmh. Il y a très peu de routes qui vont dans le centre Bretagne, encore aujourd'hui d'ailleurs, il y a très peu de routes qui vont dans le centre Bretagne, et ça permettait justement d'avoir accès à ces crêpes assez précieuses, des crêpes, voilà, des recettes de crêpes qui étaient transmises de génération en génération. Donc finalement, cette route de la crêpe, comme vous l'avez dit, était assez innovante.
Assez innovante. Ça représentait combien de crêpes à peu près qui devaient être amenées tous les jours pour l'empereur ?
Alors, on a un écrit qui date de 1803 précisément, qui nous donne le compte d'un des repas de l'empereur. Donc, on peut extrapoler. Mmh. On a une partie de petit déjeuner qui nous décompte 6 crêpes. Une qui a été mélangée avec du beurre. Une au caramel, les autres ne sont pas précisées, mais on se doute que l'empereur aimait le sucre, qui venait déjà par bateau des Antilles, c'est un autre sujet. Et donc, si on part sur 6 crêpes par repas, sachant qu'on a des secondes mains qui nous disent qu'il en mangeait à tous les repas, on a 18 crêpes par jour, on a 18 fois 6 par semaine, n'est-ce pas ?
Oui.
À peu près 4000 crêpes par an pour l'empereur. Et ça, c'est bien entendu sans compter les invités de la cour de l'empereur.
Évidemment.
Parce que quand on invite l'empereur d'Autriche à venir manger, quand on invite l'empereur du Danemark à table, eh bien, on lui amène des crêpes. C'est quelque chose qu'il n'a jamais vu. Un repas aussi plat. Et souvent, ça fait forte impression.
On estime que sur le canal, à ses premières heures, on a environ une barge de crêpes par jour qui passe. Et c'est sans compter que, évidemment, une fois que le canal a été construit, bien que les crêpes aient été l'origine de la construction, son existence fait qu'il y a un trafic d'autres denrées qui s'installent assez rapidement.
Oui, tous les abords finalement du canal, de Nantes jusqu'à Brest, devenait justement le théâtre d'un trafic sans nom. Ça a commencé par les crêpes, en effet. Donc d'abord, tous les crêpiers et crêpières de toute la Bretagne se sont installés au bord du canal pour essayer de refourguer finalement leurs crêpes dans les barges, les barges qui faisaient attention à la qualité des crêpes qui étaient choisies. Et très rapidement, voilà, toutes celles et ceux qui n'arrivaient pas à vendre leurs crêpes à la barge à crêpes se sont mis à vendre d'autres denrées à d'autres barges qui ont suivi le train finalement.
Et alors il y a eu des problèmes au départ, ça ne s'est pas fait aussi facilement que ça, hein. Il n'a pas suffi d'avoir le canal, alors on reviendra probablement sur la construction du canal en soi, mais au début il y avait des vols de crêpes dans la barge royale, donc des bandits de grand chemin venaient voler les crêpes royales, braquer en fait les barges et voler les crêpes royales. Et ce qui mettait, enfin, les crêpes de l'empereur, pas royal bien sûr, mais qui mettait en fureur Napoléon Ier.
Et oui, car il faut tout de même rappeler que la Bretagne a été longtemps un duché indépendant. Certains disent que elle l'est toujours, hein, et l'insubordination est peut-être au même titre que la crêpe, un produit du terroir breton. Mmh. Et du coup, dès les débuts, effectivement, de la construction, on a eu quelques raids notables, hein, qui ont mis des bâtons dans les roues des péniches, hein, si je puis faire ce parallèle. Malheureusement ou heureusement, ça dépendra de quel côté on se trouve. Il faut dire que l'existence du canal permet aussi d'acheminer plus rapidement des troupes vers le centre de la Bretagne. Et donc, fusil contre crêpe, les deux camps auront trouvé un arrangement.
Les indépendantistes bretons n'ont pas fait long feu. Et effectivement, leur tentative d'insurrection par l'empêchement d'acheminement des crêpes n'a pas duré après 1808.
S'il y a des choses que l'empereur pouvait tolérer, ce n'est pas la pénurie de crêpes, en tout cas.
Non.
Très bien. Donc, on a à peu près compris les débuts, enfin, le pourquoi, on va dire, de ce canal de Nantes à Brest pour acheminer des crêpes à l'empereur qui vivait à Nantes à l'époque. Est-ce qu'on ne reviendrait pas sur la construction du canal lui-même ? Comment on s'y prend pour, comme ça, creuser un canal à travers trois départements pour relier deux villes, ça paraît pas chose super aisée, surtout quand on est en 1800.
Yeah, c'est tout simplement... Guy Boissel a réfléchi simplement. Il s'est dit, pour construire ce canal qui va de Nantes à Brest, eh bien, si je prenais le problème à l'envers et que je le construisais de Brest jusqu'à Nantes. Et alors, c'est toute la ville de Brest qui va être mobilisée. Toute la ville de Brest, enfin tous les bras disponibles finalement, qui vont être mobilisés, toutes celles et ceux qui avaient la force de pouvoir creuser. Et finalement, ils vont creuser comme ça à travers toute la Bretagne jusqu'à Nantes. Donc voilà, au fur et à mesure, la population de Brest va diminuer parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de pertes sur ce chantier. C'était un chantier très, très dur. Et au final, voilà, c'est comme ces 437 Brestois qui sont arrivés à Nantes avec le dernier coup de pelle qui a terminé le canal.
Donc, on va dire un ouvrage de génie civil qui a été beaucoup plus facile à réaliser dans ce sens-là, de Brest vers Nantes. Pourquoi donc ?
Parce que ça descendait.
Parce que ça descendait.
Ça descendait, ouais, tout simplement. Tout simplement. Donc, c'était beaucoup, beaucoup plus facile, en fait, sur le papier. Mais comme je vous l'ai dit, ils sont partis à 30 000. À 30 000, donc tout ce qui a été Finistère jusqu'à Carhaix, ça a été très vite. Et déjà, à partir de Carhaix, ça a mis beaucoup plus de temps, ce qui a beaucoup agacé l'empereur, d'ailleurs, qui n'a jamais pardonné aux Brestois.
Déjà, il y avait le Festival des Vieilles Charrues,
oui,
à Carhaix, qui a ralenti pas mal la construction, parce qu'à l'époque, c'était toutes les semaines, le Festival des Vieilles Charrues.
Et puis, c'était autre chose qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est quand même un tout petit événement comparé à ce que c'était à l'époque. Ça, c'était un événement vraiment mondial qui rassemblait énormément de monde.
Non, aujourd'hui, on parle de 250 000 personnes sur 4 jours. À l'époque, c'était sur le week-end, mais il n'y avait pas moins de 25 millions de personnes qui se déplaçaient à travers l'Europe pour arriver à Carhaix.
Tout à fait. J'aimerais rappeler qu'aujourd'hui, on a un autre festival qui essaye d'imiter un peu, qui s'appellerait les Interceltiques. Les véritables Interceltiques de l'époque, c'était les Vieilles Charrues. Hein. Les gens venaient de toute l'Europe, et notamment des îles anglo-normandes et de toute la Celtique pour se retrouver à Carhaix.
Et donc voilà, en fait, les Brestois, il y en a qui ont abandonné le chantier, qui ont déserté pour justement partir faire la fête aux Vieilles Charrues, et qui ne sont jamais revenus. Donc c'est là où on a eu justement le premier drame, finalement. Comme je vous l'ai dit, ils sont partis à 30 000 Brestois. En arrivant aux Vieilles Charrues, ils étaient somme toute 29 000. Mais en repartant de Carhaix, ils étaient seulement 1 200. 1200 restaurants.
1200 uniquement, ça fait quand même une perte très très importante à cause des vieilles charrues. Est-ce que ça a impacté le festival
bien
de
sûr,
façon
bien sûr, en 1804, Napoléon Ier fait inscrire dans la Constitution française que les vieilles charrues se tiendront une fois par an et pas plus. Contrairement à l'époque où c'était encore une fois.
Qui a mis un coup dur au festival.
Un coup dur pour le festival.
Oui, parce qu'on imagine que d'un point de vue budgétaire, c'est beaucoup plus difficile à gérer comparé à le faire une fois toutes les semaines.
Ah bah oui, totalement.
Est-ce qu'il y a eu d'autres difficultés en chemin après Carhaix, on va dire d'autres embûches pour nos 1200 personnes qui ont creusé après ce canal de Nantes à Brest?
Bah, il n'était pas que 1200, il y avait 1200 Brestois qui se sont remis à la construction, mais il fallait quand même plus de main d'œuvre. Il fallait justement combler cette main d'œuvre. Et c'est là, justement, dans le centre-Bretagne, où on est allé chercher cette main-d'œuvre et pas de main morte, si j'ose dire.
Et effectivement, du coup, on est allé chercher des Bretons de tous les villages, ce qui était d'abord une préfiguration de à quel point ce canal allait irriguer toute la Bretagne. Les compagnies du roi sont allées chercher certains villages en entier. Hein. On a réappliqué la méthode de Brest. On s'est dit, on va prendre le village en entier, l'envoyer dans le canal. Et en fait, la promesse était faite à tous ceux qui s'engageaient à la construction du canal que lorsqu'ils atteindraient le village suivant, ils pourraient s'y installer en expropriant, en repoussant les gens du village suivant qui eux-mêmes allaient reprendre la construction du canal, et ainsi de suite, etc. etc. Donc il y a eu petit à petit des renforts réguliers. Alors bien sûr, ce que la promesse ne disait pas, c'est qu'il fallait prendre de force le village suivant, ce qui était quand même harassant après avoir creusé toute une partie du canal. Et il me semble que la chute démographique de la Bretagne est encore lisible dans les calottes glaciaires du pôle Nord. On a un net regain de biodiversité à ce stade, puisque la population bretonne a chuté nettement. Pour la construction du canal.
Très bien, donc un jeu finalement de chaises musicales à l'échelle de toute la Bretagne pour que chacun prenne le village de l'autre.
Tout à fait, mais à l'exception, si je puis me permettre, d'une, puisque une fois arrivé à Nantes, il est à noter qu'aucun des Nantais n'est reparti à Brest. Et donc c'est Brest qui a pris le coup dur finalement.
La boucle n'a pas été bouclée.
Exactement. Il y a encore aujourd'hui des collectifs brestois qui réclament l'arrivée des Nantais en remplacement. Pour compenser cette perte du canal.
C'est pour ça qu'on lit beaucoup des slogans Nantes en Bretagne.
Exactement.
En fait, c'est juste ça, c'est juste qu'on demande à ce qu'ils reviennent.
C'est des questions démographiques.
Questions démographiques, très bien. Pour boucler la boucle, on a bien démarré sur ce sujet du canal de Nantes à Brest. On se retrouve juste après la pause musicale.
L'histoire avec un grand I sur Prune.
Et c'était Brest de Miossec et nous revoilà dans l'histoire avec un grand I. On a expliqué les grandes lignes du processus de construction de ce canal de Nantes à Brest, pourquoi il a été construit. Est-ce qu'on peut revenir sur ce personnage qui a un peu dirigé au moins les débuts de la construction, qui est l'ingénieur en chef des ponts et chaussées, Guy Bouessel. Est-ce que ce n'est pas étonnant de demander à quelqu'un qui est spécialiste des ponts et des chaussées de venir creuser un long canal?
Ça l'est, c'est très étonnant. Effectivement, il y avait des ingénieurs de canaux à l'époque, mais ils étaient tous indisponibles et occupés à agrandir la Manche.
Qui avait besoin de ça.
Ouais, on était très proche de l'Angleterre à l'époque.
Beaucoup trop.
Ouais, ouais. Moins de 5 km, on voyait les côtes anglaises depuis Saint-Malo.
Pour ça que la France et l'Angleterre ont été en guerre pendant si longtemps. C'était si facile, finalement, de passer d'un pays à l'autre. Et au bout d'un moment, justement, à cette époque-là, Napoléon en a eu marre de cette guerre fratricide, finalement, avec un peuple avec qui on ne s'entendait pas si mal. Enfin, à l'image du Festival des Vieilles Charrues, finalement, où il y avait beaucoup d'Anglais. Mais voilà, donc ça a mis fin aussi à des centaines et des siècles d'années de guerre avec les Anglais.
Il y a eu moins d'Anglais ensuite aux Vieilles Charrues, parce qu'on ne pouvait plus traverser à pied.
C'était qu'une fois l'année, c'était compliqué.
Donc voilà, donc il fait appel à Guy Bouessel, qui était un ingénieur de ponts et chaussées, qui n'était pas spécialisé dans les canaux, mais bon, qui ferait le boulot. Il insistait pour mettre des chaussées et des ponts partout, le long du canal. Et ça a eu un effet plutôt néfaste à l'époque, c'est qu'il fallait, y avait du coup possibilité de circuler le long du canal, de circuler de part et d'autre du canal. Et ça a donné lieu à un marché noir énorme, en fait, parce que les gens pouvaient s'installer au bord du canal Et ça, c'est vraiment l'erreur de Napoléon d'avoir pris un ingénieur de pont et chaussée là-dessus.
Bah oui, comme on le disait en début d'émission, ça a donné finalement un lieu assez mal famé, les abords du canal de Nantes à Brest. Tout avait très bien commencé pourtant avec justement ces barges de crêpes qui circulaient. Mais assez rapidement, l'offre de crêpes était supérieure à la demande.
Oui, parce qu'on se doute finalement que des crêpes juste pour l'empereur, la Bretagne est largement capable de fournir la quantité.
Exactement. Mmh. Et le fait est que souvent, passé Josselin, qui est une ville du centre de Bretagne, la barge à crêpes était pleine. Et il n'y avait plus besoin de faire de crêpes. Donc ce qui faisait monter la colère un peu du peuple breton qui essayait de vendre ses crêpes toujours. Mais il y a eu quelque chose d'assez salvateur, c'est que finalement, on s'est rendu compte un jour où il y avait eu un surplus de crêpes dans la barge à crêpes, que les Nantais et les Nantaises raffolaient également de crêpes.
Il n'y avait pas que l'empereur, voilà. Tout le peuple nantais voulait manger des crêpes.
Exactement, et on s'est rendu compte qu'on pouvait justement revendre ces crêpes. Et pour justement faire passer cela en douce, c'est à partir de là que justement, après Josselin, vers cet endroit-là, on renommait les crêpes en galettes, justement, pour justement duper un peu l'empereur, parce que l'empereur ne voulait pas que le bas-peuple mange comme lui.
Ah oui, donc d'où la distinction fameuse aujourd'hui qui fait encore couler beaucoup d'encre entre crêpes et les galettes, qui datent donc de cette époque-là.
C'était juste pour faire passer des crêpes en douce, en fait, parce que ce sont des crêpes.
C'est exactement le même produit, c'est exactement. Ça que vous êtes en train de dire.
Tout à fait. Il y a une légende de Basse-Bretagne qui raconte la création de la galette, qui reprend ce moment historique avec l'histoire d'une bretonne qui va pour vendre ses crêpes à la barge à crêpes le long du canal et qui ne trouve évidemment aucun acheteur puisque la barge à crêpes est pleine depuis bien longtemps. Et donc elle serait allée dans le sous-bois récupérer de l'humus frais afin de frotter ses crêpes pour les noircir et ainsi les faire passer pour un produit complètement différent, nouveau, qu'elle pourrait vendre comme une galette. C'était un terme assez vague qui pouvait recouvrir plein de dénominations à l'époque. Et donc, à ce qui paraît, c'est dans l'honneur de cet événement-là qu'on met du sarrasin dans les galettes maintenant pour retrouver cette couleur brune qui la différencie des crêpes.
Il y a eu beaucoup d'innovations culinaires à l'époque. Moi, je pense aussi à une qui a été reprise ensuite et injustement attribuée à l'Italie, qui est la pizza, qui au final n'est rien de plus qu'une crêpe sur laquelle on a mis de la sauce tomate et de la mozzarella. Et c'était encore une fois une tentative des marchands de crêpes de vendre leurs produits.
Très bien, donc ça a été vraiment en fait, le lieu de plein d'innovations, on va dire, ce canal.
Alors oui, parce
qu'en
fait, comme je disais, il y a tout un commerce qui s'est mis en place autour de ce canal, mais voilà, tous les objets et tous les aliments finalement qui étaient vendus, c'était forcément des choses qui devaient ressembler à des crêpes. Justement, il fallait que quand même à la douane, auprès de Nantes, les gens soient dupés. Ils étaient assez faciles à duper, hein, mais tout de même, ils avaient une très bonne vision dans l'espace qu'il fallait que tout soit absolument plat. Donc voilà, il y a eu beaucoup de commerce noir d'ardoise aussi à cette époque-là.
C'est à cette époque-là qu'on voit progressivement la transition vers l'utilisation des couverts. L'assiette est à la base une crêpe en porcelaine que l'on a voulu vendre sur le canal. Avant, on mangeait sur des grandes tranches de pain, et
ou des bols.
Peu à peu.
Ou des bols. Avec les prénoms d'ailleurs.
Oui,
tout à fait.
Qu'on croit un peu plus disparu à cette époque. Le frisbee aussi, tout un tas de.
Là, si je comprends bien, arrêtez-moi si j'extrapole, mais tout ce qui était en forme de disque, grosso modo.
En forme de crêpe,
tout disque est une crêpe.
Oui, tout à fait.
Absolument.
D'accord, très bien. Donc vraiment, beaucoup, beaucoup d'innovations. On a parlé de cette barge royale. Vous en avez parlé beaucoup pendant cette émission. J'ai l'impression qu'il y a un rôle très particulier donné à cette barge sur le choix. Est-ce qu'on prend la crêpe? Est-ce qu'on ne la prend pas? Est-ce que c'est une crêpe? Est-ce que ce n'en est pas une? Qui était en charge de mener cette barge et de choisir qui était une crêpe ou...
Alors c'était un Italien. C'était un Italien. D'ailleurs, c'est lui qui s'est approprié la pizza le jour où elle a été vendue comme une fausse crêpe. C'est un Italien du nom de Penice qui était en charge de conduire cette barge justement tout le long du canal de Nantes à Brest. Et c'est lui qui la conduira jusqu'à la fin de sa vie.
Jusqu'à la fin de sa vie, une seule personne, un Italien, Penice, pour conduire cette barge. Est-ce que c'est un métier facile?
Non, parce qu'en fait, il partait de Brest. Mmh. Il faut savoir que voilà, donc il arrivait à Nantes avec ses crêpes. Ensuite, il devait retourner jusqu'à Brest. Et sur le chemin retour, il avait interdiction d'acheter quelconque crêpe. Alors qu'il était harcelé de toutes parts. Il disait non, je les prendrai au retour sur le chemin retour. Donc déjà, métier très difficile parce que voilà, il se prenait... Se prenait des légumes pourris sur son bateau qu'il devait nettoyer tous les jours. C'était un métier très dur. Il était seul sur sa barge à crêpes. Et au retour, du coup, à partir de Brest, alors là, les gens l'attendaient au tournant, si je puis dire, puisque là, il devait justement choisir les meilleures crêpes avec le peu d'argent que lui donnait l'empereur.
Et il devait faire face aux bandits qui voulaient lui voler les crêpes royales. Et c'était effectivement très compliqué. Très compliqué. Et il y a eu des grosses tentatives de corruption, hein, parce qu'effectivement, il n'était pas payé cher, Peniche, pour son rôle, pour l'importance de son rôle en tout cas. Et effectivement, le roi lui donnait peu d'argent pour trouver les meilleures crêpes. Et du coup, on tentait des fois.
Pas payé cher, ce serait néanmoins oublié qu'il avait le droit, qui est un privilège incroyable, puisque l'empereur se réservait les crêpes, de se servir à l'intérieur de la barge.
Oui, bien sûr.
Il avait installé cette exception, puisque Peniche étant le fournisseur officiel de crêpes, il fallait bien qu'il ait du goût et qu'il sache de quoi il s'agisse.
Non, bien sûr. Peniche pouvait manger les crêpes, cependant, ça ne permettait pas de faire vivre sa famille aussi aisément que ça aurait dû l'être, vu l'importance de son rôle. Et il y a eu des grosses tentatives de corruption de la part des crêperies le long du canal qui étaient prêts à payer Peniche rubis sur l'ongle pour avoir la primeur d'être sélectionné par le crêpier du roi.
Très bien, donc un rôle très très important et significatif sur cette barge. On arrive bientôt à la fin de l'émission. Est-ce qu'on peut faire un petit tour du rôle de ce canal de Nantes à Brest une fois que l'empereur a disparu, tout simplement? Qu'est-ce que c'est devenu qu'est devenu le commerce des crêpes?
Très, très peu de crêpes ensuite, hein, parce qu'il y a d'autres commerces qui se sont développés. L'empereur ne venait plus à Nantes. Et d'ailleurs, il n'y eut plus après de royauté, finalement, à Nantes. Plus personne ne venait à Nantes. Mais le commerce a continué. Finalement, ça a permis le développement du centre-Bretagne qui s'est retrouvé justement autour de cet endroit. D'ailleurs, toutes les villes aujourd'hui du centre-Bretagne sont autour du canal de Nantes à Brest. Car comme je l'ai dit, encore aujourd'hui, il y a très peu de routes dans le centre-Bretagne. Ils se déplacent beaucoup en péniche, du coup. C'est comme ça qu'on les appelle maintenant. On n'appelle plus ça des barges à crêpes, on appelle ça des péniches. Et donc voilà, donc ça a permis finalement la renaissance d'un monde oublié qui était le centre-Bretagne.
La renaissance d'un monde oublié, et j'ajouterais que la Bretagne, toujours très fertile en termes d'innovation d'objets en forme de crêpes, le canal de Nantes-à-Brest a permis de populariser des inventions qui ont été faites en centre-Bretagne vers Nantes et vers le reste du monde.
Comme le vinyle.
Inventé à Kervinyl, le vinyle, dans le centre-Bretagne. Qui a pu être les premiers vinyles ont pu être amenés à Nantes, puis dans le reste du monde par ce biais.
D'ailleurs, je vous ferai écouter, j'ai un très bon vinyle d'un couple de sonneurs, justement, qui est le premier vinyle enregistré. Donc c'est une copie, hein, bien sûr, ce n'est pas l'original, mais c'est très intéressant de m'écouter ce premier vinyle.
Avec plaisir.
C'est vrai que Thierry,
Made in Care Vinyl.
Vous avez des belles pièces dans votre collection.
J'adore le centre-Bretagne.
Dans votre maison à Loudéac, on y allait une ou deux fois avec Hagrid et il y a quelques belles pièces musicales.
Magnifique.
Ouais. Alors, du coup, qu'est-ce que vous conseillez aux auditeurs et auditrices qui sont en train de planifier leurs vacances pour cet été, qui veulent visiter le canal de Nantes à Brest? Voilà, est-ce que vous avez des adresses à conseiller, des auberges, des crêperies, des activités? On vous écoute.
Alors, bien sûr, je pense que les auditeurs l'auront compris, si vous voulez une véritable expérience historique, il faut partir de Brest et pas de Nantes.
Oui,
c'est vraiment déjà comme ça facile. Que le canal s'expérimente, effectivement, en
si
descente.
Si vous êtes à vélo, en plus, oui, c'est beaucoup mieux.
Et puis tout le long, vous trouvez encore des crêpiers historiques qui proposent parfois des recettes authentiques de crêpes, parfois des recettes modernes. Hein, attention, ce n'est pas du tout la même chose. Et puis il existe une compagnie qui propose le voyage en barge à crêpes. Hein, c'est une péniche, mais on la rappelle barge à crêpes, où vous pouvez déguster matin, midi et soir des crêpes qui viennent de tout le centre-Bretagne. Par contre, entorse évidemment au voyage classique du canal de Brest à Nantes, il vous propose des crêpes tout le long du voyage, des crêpes locales tout le long du voyage, alors que évidemment traditionnellement, à la moitié la barge est pleine et on arrête de se fournir.
Très bien, donc une façon de revivre, on va dire, l'expérience d'antan. Si on veut faire le canal de Nantes à Brest en vélo, est-ce que vous l'avez fait peut-être déjà?
Oui, plein de fois.
Ça met combien de temps environ?
Ça met une bonne semaine, hein. une bonne semaine à le faire à vélo. Après, tout dépend si vous arrivez des problèmes en route. Enfin, moi, je sais qu'à chaque fois que je l'ai fait, j'ai eu des problèmes.
Ah, il y a des brigands encore.
Bah oui, voilà.
Il y a des brigands.
Ah, il y a beaucoup de brigands. Moi, je me suis fait voler mes affaires, voler ma tente. Oui, non, c'est rempli de brigands encore.
C'est dangereux, le centre-Bretagne?
Bah, aux abords du canal, oui, encore.
Oui, si vous
partez dans les terres, c'est plus tranquille, mais aux abords du canal de Nantes-à-Brest, c'est un vrai coupe-gorge.
Mais voilà, mais partir dans les terres, on peut vous le conseiller, mais c'est compliqué. Il n'y a pas beaucoup de routes, le canal reste le centre du centre-Bretagne, l'épicentre, pourrait-on dire.
Et puis on n'aime pas beaucoup les étrangers, parce qu'on a toujours l'impression qu'on va se faire déloger de son village, comme à l'époque de la construction.
On a de nombreux récits de touristes qui rapportent qu'ils se réveillent un matin avec plus aucun disque parmi leurs affaires, parce que les Bretons ont en quelque sorte réclamé leur dû et repris toutes leurs crêpes.
Et moi, si je peux vous donner un conseil, parce que maintenant, moi, je l'ai fait plusieurs fois, parce que c'est quand même une expérience à vivre, donc il faut le faire, c'est dangereux, mais il faut connaître les ficelles. Quand vous arrivez au niveau du lac de Guerlédent, donc le canal de Nantes-à-Brest passe sous le lac de Guerlédent, je vous conseille de traverser le lac de Guerlédent à la nage et de ne surtout pas marcher sur les berges. Le bord du lac est vraiment rempli de brigands, c'est des forêts qui sont pleines de brigands. D'ailleurs, si vous nagez dans le lac, vous les voyez, vous surveillez, à attendre que vous mettiez le pied à terre. Donc surtout, ne vous arrêtez pas, nagez tout le lac.
Oui, ils ont peur de l'eau, donc restez mouillés.
Restez mouillés, ce sera le mot de la fin. Merci à nos invités, merci à vous qui nous avez écoutés. C'était l'Histoire avec un grand I pour un épisode aujourd'hui consacré au canal de Nantes à Brest. Vous retrouvez l'émission en podcast sur prune.net, toutes les plateformes d'écoute et sur Instagram, compte l'Histoire avec un grand I. Rendez-vous la semaine prochaine.
C'était l'Histoire avec un grand I. Chaque semaine, retrouvez la fine équipe de l'Histoire avec un grand I afin de revisiter en improvisation totale un fait historique qui n'a jamais eu lieu.